Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission de René Friedman en partenariat avec le Quotidien du médecin. Et ce soir, pour notre quatrième émission de la série « La modernisation de notre système de santé », j'ai le plaisir de recevoir Philippe Lamoureux, directeur général du LEM, c'est-à-dire l'ensemble des entreprises du médicament, et le docteur Thomas Borel, directeur scientifique du même LEM, pour parler justement de la place du médicament et des révolutions qui s'annoncent, aussi bien sur les innovations que sur le coût du médicament, tous ces thèmes que nous allons aborder ensemble. Merci d'être là ce soir à tous les deux.
Bonsoir.
Permettez-moi de vous présenter juste un peu, c'est-à-dire Philippe Lamoureux, vous êtes passé par l'ENA, vous êtes qui est conseiller de Bernard Kouchner, ministre de la Santé, et à nouveau en 2001-2002, 1992 et 2001-2002, c'est là que nous nous sommes rencontrés d'ailleurs, et vous êtes directeur général du LEM depuis 2008, et vice-président aussi sur le plan international.
La Fédération internationale de l'industrie pharmaceutique.
Oui. Voilà, donc vous êtes au cœur du système médicament. Thomas Borel, vous êtes directeur scientifique depuis 4 ans.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Et donc nous allons aborder avec vous des problèmes plus médico-techniques autour de ce même médicament. La première question, je crois, c'est de nous expliquer qu'est-ce que c'est que le LEM. Est-ce que c'est un syndicat? Est-ce que c'est un groupement qui défend les intérêts du patronat du médicament, des employés du médicament? Enfin, voilà, dites-nous un petit peu ce que c'est.
Le LEM, c'est un syndicat professionnel. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une organisation qui regroupe l'ensemble de l'industrie pharmaceutique exerçant sur le territoire français, qu'il s'agisse des entreprises françaises, des entreprises internationales, qu'il s'agisse des entreprises innovantes de biotechnologie ou des génériqueurs ou des laboratoires d'automédication, qu'il s'agisse de grandes entreprises qu'on appelle les Big Pharma ou des PME du secteur. Donc une organisation très large dont le rôle, comme vous l'avez dit, et de défendre les intérêts de ses mandants, donc des entreprises, mais aussi de travailler autour de trois axes. Le premier, c'est la recherche et l'innovation, qui fait l'objet de nos échanges de ce soir. Le second axe, c'est plutôt le cadre de régulation économique du secteur. Et enfin, notre organisation a un rôle professionnel, puisque nous sommes le négociateur de la convention collective de l'industrie pharmaceutique. Donc nous sommes également le patronat de l'industrie pharmaceutique.
Mais on adhère volontairement, c'est obligatoire, comment ça se passe? Ce sont les institutions, les entreprises qui adhèrent, ou c'est individuellement?
L'adhésion est volontaire, c'est une adhésion qui est faite entreprise par entreprise, et le LEM compte aujourd'hui 270 adhérents et représente 98% du chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique en France. C'est donc une organisation extrêmement représentative et unique dans le secteur de l'industrie pharmaceutique.
Alors effectivement, j'ai lu qu'il y a près de 100 000 personnes, hein, je veux dire, qui sont concernées par ces activités. Il y a 150 métiers, il y a 54 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, ça peut changer chaque année, bien sûr, mais ça donne un peu le niveau d'intervention. Et finalement, vous êtes, en dehors de vos propres actions, on va en citer quelques-unes, vous êtes consulté par les instances comme le point de vue. Est-ce que vous avez été consulté, par exemple, pour le plan santé 2022?
Alors, nous sommes effectivement l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Nous avons été consultés, nous avons contribué dans le cadre du plan santé 2022. Mais c'est vrai que ce plan santé, nous y reviendrons peut-être, s'adresse assez peu à la question du médicament, qui est un petit peu à la marge
oui,
des travaux.
Oui, et pourtant le médicament représente un point fort de l'activité santé, quoi.
Tout à fait. Nous avons eu l'occasion de regretter qu'effectivement cette dimension innovation ait peut-être été insuffisamment intégrée dans le projet de loi. La réponse qui nous a été donnée à l'époque et qui s'entendait tout à fait, c'est que nous avions eu quelques mois auparavant un conseil stratégique des industries de santé sous l'autorité du Premier ministre qui a permis d'embrasser l'ensemble des sujets de l'industrie pharmaceutique et de balayer différents thèmes d'avenir.
Donc, mais vous-même, vous avez fait un rapport, je dirais une prospective.
Absolument.
2030,
absolument.
Vous dépassez 2022 là.
Absolument, nous venons de publier cet exercice de prospective autour de santé 2030. 2030, parce que nous avons voulu permettre aux décideurs, mais aussi à tout un chacun, le rapport se trouve sur le site du LEM, de prendre conscience de la vague d'innovation thérapeutique sans précédent à laquelle nous allons être confrontés dans les années à venir et dont nous ressentons déjà les prémices aujourd'hui.
Alors justement, on va discuter avec vous, Thomas Morel, de cette réalité, d'une accélération extraordinaire des innovations scientifiques et médicales. Et je dois dire que je m'en rends compte ici même, en ayant invité à France Culture au cours de cette année un certain nombre de nos talents qui, je veux dire, nous apprennent véritablement les grandes révolutions qui s'annoncent. Alors, de votre côté, quel est votre rôle par rapport à l'innovation? Vous allez soutenir l'innovation, mais de quelle façon?
Alors, un des rôles importants que soulignait d'ailleurs Philippe Lamoureux à l'instant du LEM, c'est de favoriser une innovation qui se tienne sur le territoire français, puisque c'est important d'être en proximité des industriels qui développent...
Mais quand vous dites le territoire français, beaucoup d'industries françaises délocalisent? Non.
Beaucoup d'industries délocalisent, des centres de recherche se font souvent, nous sommes dans des industries mondialisées, comme vous savez, et donc l'objectif c'est que...
Et là vous n'intervenez pas, s'il y a des fabrications qui se font en Asie, ou des innovations qui se font en Asie, bien que pilotées par des industries françaises ou au moins en partie.
L'objectif c'est pour nous de rapprocher une sphère publique et une dynamique de recherche publique avec une dynamique de recherche privée qui est celle de l'industrie du médicament effectivement, et de pouvoir jointer au mieux ces deux composantes. C'est un des objectifs importants que nous portons aussi bien sur la recherche clinique, c'est-à-dire le développement des médicaments, que sur la recherche tout court fondamentale qui permet de rapprocher ce qui est décrit dans le travail que nous avons conduit sur Santé 2030, hein, les innovations de demain et d'ailleurs d'aujourd'hui, puisqu'un certain nombre d'entre elles sont déjà opérantes pour les patients.
Alors on va revenir bien sûr sur ces innovations. Il y a une première chose qui m'a un peu surpris dans les lectures que j'ai faites, mais je suis content de vous avoir en face. Il y a toute l'approche thérapie génique, l'approche cellule souche. J'ai pas l'impression que vous êtes véritablement impliqué dedans, mais peut-être je me trompe.
Alors, écoutez, l'industrie du médicament est très impliquée sur les questions de thérapie génique et cellulaire. En l'occurrence, vous avez des traitements qui sont depuis peu disponibles, que sont les CAR T-cells, par exemple, qui sont issus de la thérapie génique et cellulaire et qui permettent aujourd'hui d'apporter des réponses thérapeutiques sans précédent dans certains...
Mais ce que je veux dire, c'est la recherche, par exemple, sur les cellules souches qui posent des problèmes, comme vous le savez, parfois idéologiques et des blocages. Néanmoins, il y a des essais cliniques qui sont en cours dans le monde, et il y a des essais de thérapie génique, et quand on voit, on écoute Généton, je veux dire, on voit bien qu'il y a des forces importantes en France d'ailleurs, et est-ce que votre attitude du LEM est de vouloir impulser, soutenir, dépasser cette activité?
Oui, absolument. Parler recherche clinique, c'est quelque chose que nous mesurons de façon très, très régulière. Hein. La France a beaucoup d'atouts. Elle a une recherche publique de grande qualité, elle a un maillage hospitalier excellent, elle a des leaders d'opinion mondiaux tout à fait importants. Maintenant, notre objectif, c'est de développer la recherche clinique sur le territoire, et l'action du LEM vise à améliorer les conditions de cette recherche clinique, par exemple en raccourcissant les délais d'autorisation des essais, qui sont beaucoup trop longs en France par rapport à nos concurrents européens. Et quand on fait les études sur l'attractivité de la recherche clinique, on s'aperçoit que la France est plutôt très bien placée dans certains domaines. Elle est bien placée en oncologie, elle est bien placée sur les maladies rares, elle est relativement bien placée sur les risques infectieux, les maladies infectieuses. Elle est beaucoup moins bien placée sur les maladies métaboliques, où elle est très fortement concurrencée, effectivement, comme vous le disiez, par ces pays d'Asie qui sont très compétitifs dans ce domaine. Dans le domaine des thérapies géniques et cellulaires, tout l'enjeu, c'est de structurer une filière de recherche et de production. La France, là encore, a des atouts dans ces deux domaines. Et effectivement, quand on observe ce qui se passe à l'échelle planétaire, l'essentiel des recherches en thérapie génique et cellulaire se concentre sur les États-Unis. La Chine est émergente et la question que vous soulevez est en réalité une question pratiquement européenne. C'est où est l'Europe dans ce débat?
C'était pas dans les élections européennes ce point-là,
mais absolument.
Néanmoins, c'est un point important.
Alors, il y a quand même un point positif qu'on peut souligner, c'est que une entreprise vient récemment d'annoncer qu'elle avait choisi la France comme site de production de ces fameux CAR T-cells, et donc c'est une véritable reconnaissance de l'excellence française, et c'est un point très important à souligner.
Si je peux me permettre, je crois que le point qui est souligné à l'instant, c'est aussi le lien fort entre, et de plus en plus fort sur ce type de thérapie et de biothérapie, entre justement la recherche d'amont, la recherche clinique et la production. Et c'est quelque chose d'assez nouveau parce que les choses étaient potentiellement plus segmentées dans le champ du médicament chimique. Mais là, aujourd'hui, la proximité entre une unité de production qui va produire les cellules, qui vont être les cellules modifiées, qui vont être ensuite réinjectées au malade, et donc le lieu de recherche initiale et le lieu de soins est extrêmement importante pour organiser cette la mise à disposition de ces innovations.
Donc il y a une volonté effectivement donc de rendre ça émergent en France. On va discuter beaucoup du problème du coût des médicaments en fonction de ces investissements. Là, j'ai lu que ces jours-ci, aux États-Unis, c'est le premier médicament de thérapie génique là sur l'amyotrophie spinale infantile qui vient par Novartis, qui est mis sur le marché, mais à des sommes astronomiques. Donc c'est vrai que tout le rapport entre la recherche académique, universitaire, publique et les investissements des industriels est un point délicat sur lequel j'aimerais que nous nous étendions un petit peu, bien sûr, entre nous. Je m'aperçois que vous faites des campagnes d'information qui sont bien faites. La maladie ne dort jamais, nous non plus. C'est une incitation, je dirais, au fait qu'il y a signifié qu'il y a 7000 médicaments qui sont en cours de développement. Donc c'est énorme quand même tout ce qui se passe. Mais il y a aussi des médicaments qu'on arrête. Et il y a aussi des médicaments qu'on arrête volontairement ou d'autres qui devraient peut-être être arrêtés. Je pense au débat qu'il y a sur l'homéopathie en particulier. Est-ce que vous intervenez là-dessus ?
Si vous voulez, un sujet évidemment de l'homéopathie et des sujets sur la prise en charge d'un panier de soins remboursable aujourd'hui. Les laboratoires d'homéopathie sont des laboratoires adhérents du LEM, donc nous intervenons comme pour tout adhérent du LEM. Il est vrai que le débat scientifique est aux mains de la Haute Autorité de Santé aujourd'hui. Elle est effectivement pas tout à fait tranchée puisqu'on est dans une phase contradictoire d'une discussion scientifique que la Haute Autorité.
À savoir, est-ce que ça sert ou est-ce que ça sert
exactement.
Pas quoi. C'est le fond du problème. Est-ce qu'on a démontré l'efficacité ? On a démontré que c'était pas nocif. Le problème pour nous scientifiques, c'est de savoir est-ce qu'on a une démonstration d'une méthode scientifique sur l'efficacité ou pas de tel ou tel produit. C'est valable pour tout d'ailleurs.
Et on est sur un modèle très différent sur les médicaments d'homéopathie, comme vous le savez. C'est assez, je dirais, marginal ou différent de ce qu'on traite habituellement dans le champ thérapeutique des médicaments habituellement développés par les industries de santé du médicament. Et avec des questions qui se posent, qui sont d'ordre différent, qui sont probablement des questions d'ailleurs adressées de façon compliquée par des autorités d'évaluation qui se positionnent sur des critères classiques d'évaluation du bénéfice-risque, notamment dans l'appréciation de la valeur d'un médicament.
Dans le même ordre d'idée, est-ce que vous occupez au LEM des médicaments, mais aussi des soins qu'ils peuvent être apportés, me semble-t-il. Est-ce que tout le phénomène des cures thermales, est-ce que c'est aussi dans votre giron ?
Non, mais c'est vrai que la question que vous posez renvoie à Santé 2030. En fait, ce que montre clairement Santé 2030, c'est que nous allons connaître une vague d'innovation sans précédent. Santé 2030. On a pris une quinzaine de nouveaux mécanismes d'action, des thérapies géniques et cellulaires dont on parlait tout à l'heure jusqu'à l'épigénétique ou à la microfluidique. Et on a balayé une douzaine de pathologies en regardant les produits qui étaient, comme on dit, dans le pipe, c'était en cours de développement avec de fortes chances d'arriver au marché. Et on s'aperçoit très rapidement que on est en face de vraiment quelque chose d'assez nouveau avec des innovations de rupture qui ne seront pas des innovations destinées à une population extrêmement large, qui seront souvent des produits de niche, très très ciblés sur des populations particulières. Et cette arrivée des nouveaux médicaments va poser nécessairement deux questions. La première question, c'est la question du panier de biens. C'est que faut-il rembourser, que ne faut-il pas rembourser ? Ça va donc interroger, je crois, la puissance publique sur l'opportunité de certaines prises en charge. Et la deuxième question qui va se poser, ça va être la question de l'efficience. C'est-à-dire, ces innovations vont générer beaucoup d'efficience dans le système de santé. Mais si le système de santé ne restitue pas ces gains d'efficience, eh bien, à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'il y aura un problème de soutenabilité financière qui va se poser. Nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure.
Un peu de musique avant de reprendre notre souffle. Thank you.
Culture, matière à penser, René Friedman.
Voilà, vous êtes sur France Culture, donc en partenariat avec le quotidien du médecin, nous abordons le quatrième chapitre de la modernisation de notre système de santé avec deux représentants du LEM, c'est-à-dire de toutes les industries pharmaceutiques, d'une part avec son directeur scientifique Thomas Borrell, et puis d'autre part avec son directeur général Philippe Lamoureux. Et nous venons d'écouter une musique choisie par Philippe Lamoureux, et évidemment, je vais lui demander pourquoi cette musique. Merry Christmas, Mr. Lawrence.
Absolument, c'est une musique qui a été composée par Ryuji Sakamoto dans un qui est la musique du film Furio, interprétée magistralement par David Bowie. Et c'est une illustration, d'une certaine façon, du progrès thérapeutique à venir, puisque David Bowie, hélas, est décédé d'une hépatite C, qu'on guérit aujourd'hui avec les nouveaux traitements. Et Ryuji Sakamoto, quant à lui, est en rémission d'un cancer de la gorge, grâce aussi à l'innovation thérapeutique. Donc je pense que cette musique rassemble le progrès thérapeutique, c'est une belle illustration.
Alors justement, vous abordez le problème de l'hépatite C par cette citation. Là où, de façon incroyable sur le plan scientifique, nous sommes en passe de pouvoir éradiquer une maladie, ce qui est quand même assez extraordinaire. Enfin, c'est pas la seule d'ailleurs, mais quand même celle-là, c'était extrêmement rapide, au prix, c'est le cas de le dire, de la découverte de médicaments qui sont extrêmement chers. Donc ça centre le problème sur quel est le coût, qui fixe le coût des médicaments, et le coût des médicaments, ce n'est pas le coût de la production du médicament, c'est beaucoup plus vaste, et force est de constater quand même que l'industrie pharmaceutique, en tous les cas les big pharma, ont actuellement des investissements et des bénéfices, on va dire, extrêmement importants, qui s'apparentent un peu, on le disait avec Jean-François Delfrécy, qui se pose un certain nombre de problèmes éthiques que vous aurez à rediscuter en tant que représentant de l'industrie pharmaceutique, les problèmes éthiques quant à cette évolution. Donc oui, je dirais la part du PIB en France pour ce coût représente 2%, mais il est plus élevé qu'en Grande-Bretagne, qu'en Allemagne ou qu'en Italie. Est-ce qu'on peut, je dirais, essayer d'analyser pourquoi ? Est-ce qu'il y a une surconsommation médicale ? Quels sont les mécanismes qui explicitent ce coût, en tous les cas, élevé, particulièrement des innovations ?
Alors, premier élément, il n'y a pas de spécificité française en matière de consommation de médicaments. C'est-à-dire qu'on vit encore sur l'idée qu'il y a une surconsommation de médicaments en France. Ça a été une réalité historique. Aujourd'hui, nous convergeons vers une consommation standard européenne. C'est-à-dire que les pays qui consommaient peu, comme l'Espagne, consomment de plus en plus. Et des pays comme la France, qui consommaient beaucoup en volume, consomment un peu moins. On diminue notre consommation d'à peu près 1% par an.
Mais là, on parle de tout médicament confondu.
Tout médicament confondu.
C'est-à-dire les utiles plus et les utiles peut-être moins.
Alors après, le deuxième élément sur ces prix des médicaments innovants, je voudrais rappeler à titre liminaire deux choses. La première, c'est que paradoxalement, par rapport à votre introduction, le médicament, c'est un produit peu coûteux. C'est-à-dire que l'immense majorité des médicaments coûte assez peu cher, moins de 3 euros la boîte pour 50% des médicaments.
Et, oui, c'est bien de le rappeler. Oui.
Et d'autre part, que l'enveloppe de dépenses de médicaments, elle est maîtrisée depuis 10 ans. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires industriel de notre secteur n'a pas cru depuis 10 ans, malgré l'arrivée des traitements de l'hépatite, malgré l'arrivée de la première génération de ces nouveaux anticancéreux qu'on appelle les anti-PD-1. Autrement dit, la dépense a été contenue, et c'est même d'ailleurs un problème pour notre secteur.
Mais c'est pas un effet de balance, c'est-à-dire le fait que certains de médicaments sont déremboursés et d'autres novateurs les...
Bien évidemment. C'est-à-dire que pour faire de la place à ces médicaments innovants, eh bien, il faut baisser les prix des autres médicaments. Et il y a chaque année, loi de financement après loi de financement, environ 1 milliard de baisses de prix votées par le Parlement, ce qui évidemment fragilise la chaîne de production des médicaments plus matures, on y reviendra. Ce qui fait que ces médicaments innovants sont chers, et il y en a très peu, on parle de 5-6 médicaments par an. Ce qui fait que ces médicaments innovants sont chers, c'est en réalité plusieurs facteurs. Premier facteur, je l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont plus des médicaments que vous allez amortir sur des populations très importantes. Ce sont des médicaments de niche qui vont concerner des populations ciblées, quelques centaines de patients souvent, même si effectivement l'hépatite C est un petit peu un contre-exemple par rapport à ce que je viens de dire. Deuxième élément, lorsque vous mettez au point un médicament, vous devez intégrer trois choses. Premier élément, la durée. Il faut 12 ans pour mettre au point un nouveau médicament, c'est-à-dire à peu près deux fois plus de temps que pour mettre au point un nouveau modèle d'Airbus. Ça prend du temps. Deuxième élément, vous allez immobiliser du capital pendant une durée extrêmement longue. Et plus vous allez avancer dans la recherche, plus cette immobilisation va être importante. Troisième élément, le risque, puisqu'évidemment, vous avez un taux d'échec extraordinairement important, et pour cette trentaine de médicaments qui sont des vraies innovations de rupture, vous avez des dizaines de milliers d'essais qui sont arrêtés parce qu'on s'aperçoit qu'on est sur une fausse piste ou qu'il y a trop d'effets indésirables. Et donc en réalité...
Vous voulez dire qu'il y a 90% des essais qui s'arrêtent déjà en phase 1.
Voilà.
Là, on teste la toxicité ou la supportabilité.
On va dire que sur 100 essais cliniques qui sont en phase 3, seuls 7 aboutiront à l'état de médicament, et sur ces 7, la plupart seront reconnus comme des équivalents ou des légères améliorations par rapport à ce qui existe sur le marché, mais pas comme des ruptures. Et dernier élément, la notion de prix basé sur les coûts, de valeur basée sur les coûts a très peu de sens dans l'industrie pharmaceutique. Pourquoi ? Parce que les coûts sont totalement indépendants de la nature des produits. Par exemple, on sait que les coûts sont plus importants dans les grandes entreprises que dans les petites biotech. Ça n'aurait pas de sens de fonder un prix sur un coût. Par contre, ce qui doit fonder le prix, c'est la valeur thérapeutique. Et pour répondre à votre question... Le prix n'est pas fixé par les industriels librement. Il y a une évaluation par la Haute Autorité de Santé et une négociation de prix avec le Comité économique des produits de santé. C'est donc l'État qui est présent tout au long de la chaîne. Dernier élément, parce qu'il est essentiel pour vos auditeurs, c'est que le prix d'un médicament ne reflète pas les coûts passés. On ne cherche pas à amortir des coûts par le prix d'un médicament, on cherche à financer l'avenir et donc à financer les produits de demain, la recherche du futur, les nouveaux médicaments et les nouvelles solutions thérapeutiques. Quand vous intégrez la durée, l'immobilisation du capital, le taux d'attrition des médicaments, ça veut dire que l'industrie pharmaceutique, c'est une activité à haut risque, comme les high-tech, et donc il y a effectivement... un taux de rentabilité qui est relativement plus élevé que dans bien d'autres secteurs, parce qu'on va rémunérer cette prise de risque. Récemment, un laboratoire que je ne citerai pas a annoncé qu'il arrêtait un essai clinique très prometteur sur la maladie d'Alzheimer, et immédiatement, on a vu les conséquences en termes de capitalisation boursière de cette annonce. Et donc, nous sommes une activité à haut risque, et évidemment, le risque est rémunéré.
Mais alors, quand on voit... ce qui se passe dans les big pharma, c'est-à-dire le fait qu'il y a des rachats, c'est pas la vente du lapin de Kuntz, là, à 95 millions de dollars, mais enfin, on n'en est pas loin, hein. 74 millions de dollars, c'est pas la même chose, hein. Kuntz, il traitera rien du tout, mais Bristol Myers Squibb qui achète une compagnie à 74 millions de dollars, c'est quand même beaucoup, et puis tous les autres, et toutes les... Donc il y a quand même une... Enfin, ce qu'on ressent, hein, c'est une propension capitalistique forte.
C'est tout à fait exact. Alors, c'est 74 milliards. Vous avez tout à fait raison. Maintenant, je crois que ce qu'il faut, bien comprendre, c'est que, paradoxalement, là encore, l'industrie pharmaceutique, quand on regarde et quand on la compare à d'autres industries, comme l'aéronautique ou comme l'automobile, c'est une industrie qui est très peu concentrée. Il y a beaucoup d'opérateurs et par ailleurs, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de cette industrie, c'est une industrie qui se renouvelle en permanence. Beaucoup d'entreprises disparaissent, beaucoup d'entreprises se créent, se développent et croissent. Il y a ça quelques années, on ne parlait pas de Genzyme, on ne parlait pas de Gilead, on ne parlait pas de Regeneron. Et ce sont des entreprises qui se sont créées sur l'innovation qui est vraiment le driver de notre secteur.
Mais Philippe Lamoureux, puisque vous parlez d'innovation, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On a le sentiment quand même que l'innovation, elle est surtout, hein, je veux dire, académique, et qu'elle est, on attend que les start-up trouvent quelque chose, et les industries pharmaceutiques qui s'impliquent moins justement dans la recherche, mais plus dans le développement, et vont racheter les innovations qui sont faites par des petites compagnies.
Alors oui, c'est un peu vrai. C'est-à-dire que, mais je crois qu'il faut pas raisonner en opposant les petits et les gros. Je crois qu'il ne faut la recherche académique et la recherche industrielle.
C'est bien pour les petits aussi d'être achetés à un moment donné.
Je crois que le mot clé c'est écosystème. C'est-à-dire que nous sommes dans un écosystème d'innovation dans lequel chacun a sa place. La recherche académique joue un rôle extrêmement important. Vous avez raison. raison. Et beaucoup d'innovations produites, développées par l'industrie pharmaceutique proviennent de la recherche académique. Il y a d'ailleurs beaucoup de chercheurs académiques qui créent eux-mêmes leurs start-up. La recherche académique elle-même bénéficie très largement de financements industriels, donc elle y trouve aussi un intérêt. Inversement, il est clair que les grands groupes pharmaceutiques ont externalisé une bonne partie de leur recherche et ont plutôt tendance actuellement à aller regarder ce qui se passe dans le monde des biotechnologies pour aller effectivement alimenter leur pipe d'innovation. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, quand vous êtes une big pharma, vous avez trois possibilités. Première possibilité, avoir des produits qui vont vous permettre de vous continuer à assurer votre développement. Avoir la possibilité de faire une OPA sur un concurrent qui a un portefeuille assez complémentaire du vôtre. C'est l'exemple que vous citez, BMS Celgene. Et si vous n'avez ni produit en développement prometteur, ni cette capacité à vous renforcer en vous rapprochant de certaines autres entreprises, bien vous devenez une proie et vous avez un vrai risque de disparaître.
Thomas Borel, sur une question plus pratique peut-être pour le consommateur. Actuellement, on voit sur le marché les biosimilaires et puis les génériques. Et quand je vois autour de moi, les gens sont souvent perdus parce que le générique, il faut retrouver le nom du générique qui n'est pas forcément relié au médicament d'origine. Et là, c'est un peu panique et souvent, je crains qu'il y ait un certain nombre d'erreurs de prise de médicaments à cause de ça. Est-ce qu'on peut pas être un peu plus clair, vous qui faites des campagnes d'information, sur et peut-être réfléchir sur le fait que le nom du générique soit quand même relié à un moment donné à son produit d'origine, parce que tout le monde connaît, enfin ceux qui ont commencé bien sûr, qui ont un traitement chronique en particulier, mais qui va évoluer. Voilà. Alors peut-être d'abord. Qu'est-ce que c'est qu'un générique? Qu'est-ce que c'est qu'un biosimilaire?
On est sur, alors là, on passe sous effectivement un angle totalement différent puisqu'on est sur des médicaments qui sont, dont le brevet est échu. Donc la phase d'innovation et de mise à disposition du traitement est déjà assez lointaine. Et donc le médicament dont le brevet est échu peut être génériqué. C'est-à-dire qu'on a retesté le médicament pour vérifier l'équivalence de l'effet thérapeutique. Et notamment, on peut avoir changé son excipient puisqu'un médicament c'est composé d'un principe actif et d'un excipient. L'excipient peut évoluer dans le générique, mais le principe actif, c'est-à-dire ce qui fait l'efficacité du médicament, reste évidemment identique. Donc le générique a la même efficacité que le traitement princeps, ce qu'on appelle le traitement princeps, c'est-à-dire le traitement d'origine. Et donc à l'issue de cette phase donc d'échéance brevetaire, le médicament, son brevet tombe dans le domaine public, et donc le médicament est générique.
Mais il y a souvent plusieurs génériques.
Alors bien entendu, quand le brevet est tombé dans le domaine public, plusieurs acteurs qui sont sur un modèle économique totalement différent que de l'industrie d'innovation, hein, mais qui est un modèle tout à fait pertinent aussi, copie le produit. Et ce n'est pas une pâle copie du produit initial, c'est le même, encore une fois, le même traitement en termes d'efficacité du thérapeutique. Et donc plusieurs acteurs sont sur le marché. Et donc effectivement, il peut y avoir un sujet de confusion et donc d'adoption pour les patients et consommateurs français, souvent, un peu complexe. On a eu beaucoup de mal à faire décoller la politique du générique en France. C'est mieux aujourd'hui, c'est beaucoup mieux, et je pense que ça fait partie des choses que nous encourageons fortement pour que justement cette place soit faite pour revenir financer le traitement innovant, puisqu'en général.
Mais vous pensez pas qu'une référence au médicament initiateur, celui qui a eu le brevet, quoi, en un mot, serait peut-être utile, tout bêtement, parce que les traitements chroniques, les personnes âgées, enfin, je veux dire, ont du mal parfois.
Il est vrai que certains pays ont plus poussé, par exemple, la prescription en dénomination commune internationale, qui est le nom générique des produits, justement, et donc qui peut favoriser l'adoption. Nous, en France, on connaît beaucoup les médicaments sous leur nom de spécialité, donc on fait vite une référence à cela.
Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que la politique du générique en France est très adossée aux pharmaciens d'officine. Et en réalité, il y a l'intervention du pharmacien qui sécurise ou qui doit sécuriser le patient. C'est vrai, là encore, comme le disait Thomas Borel, d'autres pays ont fait d'autres choix. Certains pays, je pense à l'Allemagne en particulier, a beaucoup plus adossé sa politique du générique aux médecins qu'aux pharmaciens. En France, on a fait véritablement le choix de permettre, par exemple, aux pharmaciens de substituer un princeps. Donc, c'était relativement neutre pour le patient, à condition qu'il y ait une vraie pédagogie. Je crois qu'il faut sortir un petit peu des fantasmes d'il y a quelques années, où on laissait entendre que le médicament générique n'était pas le même Oui, il n'avait pas les mêmes effets thérapeutiques que le médicament princeps. Il reste quelque chose, alors qu'en réalité, l'effet thérapeutique va être le
même. Il faut dire que les problèmes de l'effet thérapeutique, avec l'histoire du lévothyrox, avec l'histoire du médiateur, il y a quand même des points d'interrogation qui se greffent sur est-ce que c'est vraiment le même, alors qu'on change très peu de choses et on ressent des choses, je pense surtout du lévothyrox, bien sûr, des choses différentes.
En l'occurrence, c'était l'évolution de la formule, c'est de la formule du princeps.
Pourquoi ça durait tellement de temps avant de comprendre qu'il y avait une vraie évolution, au lieu de répéter que c'était la même chose? On va pas discuter, c'est pas le thème. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à discuter, et en particulier, je voudrais parler avec vous de la pénurie qui survient dans notre approvisionnement de médication. D'abord, l'histoire du Brexit. Vous vous préparez à un Brexit dur et donc à des troubles dans l'approvisionnement de certains médicaments ?
On peut parler effectivement des pénuries en général. Le Brexit est un sujet qui a été pris avec beaucoup d'attention par l'industrie et en lien avec les pouvoirs publics, avec l'Agence du médicament, pour justement se préparer à toute éventualité de rupture de stock d'un ou de plusieurs produits. En l'occurrence, je voudrais être rassurant et que nos auditeurs l'entendent, même si on est dans une configuration de Brexit dur, a priori, le nombre de cas de produits qui se verraient avoir des difficultés d'approvisionnement venant du Royaume-Uni est très limité et pour l'instant bien identifié.
Mais là, vous avez effectivement anticipé quelque part.
Bien sûr, c'est un gros travail qui nous a conduit à plusieurs réunions.
Mais même avec le Brexit n'étant pas encore là, il y a quand même déjà de la pénurie.
Alors, le sujet des pénuries, plus largement, évidemment, pose plein de questions. D'abord, c'est un problème de santé publique et les industriels du médicament en sont extrêmement soucieux et conscients parce que le rôle d'un industriel du médicament, c'est quand même de mettre à disposition son produit de santé, son médicament sur le marché dans lequel il travaille. L'explication de cela doit nécessiter de repasser par le fait qu'on est dans une industrie très mondialisée et qu'on est dans une industrie dans laquelle la demande de médicaments dans le monde entier n'a cessé d'augmenter ces dernières années.
Et c'est pas fini.
Et donc chaque fois qu'une demande importante, plus importante survient dans une zone géographique, comme prenons un exemple de la Chine, on se retrouve avec des usines qui sont en tension sur la phase de production. Et comme produire un médicament n'est pas chose simple, il ne suffit pas de claquer des doigts pour remettre en place une nouvelle ligne de production, toutes ces lignes sont normées, sont hautement technologiques, etc. L'adaptation de l'offre à la demande mondiale pose des problèmes et est pour partie source des pénuries et des ruptures que nous connaissons.
Vous voulez dire qu'il y a d'une part des demandes de médicaments qui explosent à un moment donné, et d'autre part des usines de fabrication qui ne sont peut-être plus aux normes que l'on voudrait, tout ça va jouer. Mais par contre, la pénurie du principe actif du médicament existe également. Elle pose évidemment un problème, c'est-à-dire de l'indépendance des pays, particulièrement de l'Europe et de la France. Est-ce qu'on est dans une phase plutôt indépendante de ressources de nos médicaments essentiels, ou est-ce qu'on est dépendant? Quelle est la situation?
Ce qui est clair, c'est que depuis 20 ou 30 ans, on a assisté à une forte délocalisation de la production du principe actif. Donc l'industriel du médicament achète souvent son principe actif à un tiers qui produit des principes actifs pour le médicament, mais d'ailleurs parfois pour d'autres sources d'alimentation. Et donc on a assisté à une délocalisation, parce qu'aujourd'hui vous avez 80% de la matière première du médicament, donc du principe actif, qui est produit dans des zones Inde, Chine et extra-européennes pour la majorité d'entre elles. Donc la dépendance...
Est-ce que ça revient moins cher?
Alors il y a un sujet effectivement de coût, puisqu'effectivement les coûts de production de cette matière première sont parfois moindres dans ces zones géographiques. Il y a aussi un sujet associé au volume, parce que des fois il s'agit parfois de volumes extrêmement importants, qui sont les composantes qui permettent ensuite d'avoir tel ou tel principe actif, en particulier pour les principes actifs biologiques, qui nécessitent des élevages d'animaux parfois de façon très, très importante. Et puis il y a un choix politique qui malheureusement a manqué probablement ces dernières années, vous l'évoquez sous le champ de l'indépendance sanitaire, plutôt sur la région Europe, qui est de dire qu'il faut absolument qu'on maintienne une production industrielle forte en Europe pour favoriser le maintien de principes actifs sur le territoire européen et à proximité de nos futurs patients et au moins citoyens.
Mais alors Thomas Borrell, nous sortons des élections européennes. Est-ce qu'au niveau de l'Europe, vous avez une politique, vous sentez qu'il y a une politique commune, vous agissez pour qu'il y ait une politique commune, en tout cas un lien qui se fasse sur ce principe-là de l'indépendance?
Oui, vous avez raison. C'est un sujet absolument majeur. Je crois qu'on est en train de se rendre compte, et on va le faire de plus en plus avec ce qui va se passer dans les prochaines années, que notre industrie est une industrie stratégique, au même titre que l'industrie des télécoms, ou l'industrie des transports, ou l'industrie de la défense. Et que l'Europe, ces dernières années, s'est affaiblie dans un contexte mondial dans lequel il y a une forte domination américaine. 50% du marché mondial, ce sont les États-Unis. et la croissance est en Asie du Sud-Est, la Chine et les pays émergents. Donc l'Europe est au milieu de ça, et l'Europe doit absolument considérer notre industrie comme une industrie stratégique. Ça pose effectivement le problème de l'approvisionnement en matières premières, qui ne peut pas être réglé à l'échelle d'un pays comme la France, mais qui doit faire l'objet d'une initiative européenne, et je pense que là, la France s'honorerait à pousser dans cette direction.
Mais est-ce qu'il y a quelque chose, je veux dire, qui réunit un groupement de réflexion sur le médicament en Europe?
Absolument, il y a une fédération européenne du médicament qui travaille sur ces sujets. La difficulté, c'est que les États membres sont à la fois dans une convergence d'intérêts sur l'indépendance stratégique de l'Europe, mais dans une concurrence pour attirer les investissements sur leur territoire. Et le gouvernement allemand ou le gouvernement italien préférera toujours voir les activités s'implanter dans son pays plutôt qu'en France.
Donc, on peut faire un deal avec les migrants.
Voilà. Voilà, par exemple. Non, ça, je vous en laisse la responsabilité.
Oui, je la prends.
Mais je pense que, voilà, donc sur l'approvisionnement en matières premières, on a effectivement la possibilité d'avoir des initiatives européennes, ne serait-ce que pour conserver ce que nous fabriquons. Parce que aujourd'hui, notre principale préoccupation, c'est d'abord d'éviter que le mouvement de délocalisation ne se poursuive. Deuxième exemple, l'antibiorésistance. On parle beaucoup du réchauffement climatique et des risques sur l'environnement planétaire, mais le deuxième grand risque auquel l'humanité va être confrontée dans les 20 ou 30 prochaines années, c'est la résistance aux antibiotiques. Et donc là aussi, on ne sortira pas de cette difficulté. Il n'y a plus d'innovation dans le domaine des antibiotiques.
Sauf les phages.
Sauf peut-être les phages.
Peut-être.
Et quelques médicaments aussi.
Voilà,
encore,
il n'y a plus.
Mais c'est vrai qu'il n'y a, voilà, a pas de nouveaux antibiotiques,
pas,
en tout cas.
On sent bien qu'il n'y a pas d'élan sur les antibiotiques. Il y a des choses qui se passent, mais on n'a pas d'élan comme en oncologie ou dans les maladies rares. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, si vous avez une nouvelle classe d'antibiotiques qui arrive, les autorités de santé, et c'est tout à fait normal, interdiront leur commercialisation pour les conserver pour les cas de résistance. Et donc, il faut imaginer de nouveaux modèles. Comment on crée quelque chose à partir de ce qui n'existe pas aujourd'hui? Probablement en partenariat entre les industriels et les États. Et ça, c'est une initiative qui doit être prise à l'échelle européenne. Il y avait eu une réflexion qui avait été lancée par le président Obama en son temps, mais qui n'a pas été relayée depuis. Et là encore, je pense qu'il peut y avoir un véritable leadership français sur ce sujet.
Autre thématique, celui des faux médicaments. On est surpris donc de lire et d'apprendre qu'il y a dans le monde un nombre important de faux médicaments, peut-être 1 sur 10. Il y a des sous-standards et il y a des contrefaçons. Qui est-ce qui peut intervenir là-dessus?
Alors, vous dites 1 médicament sur 10. En réalité, dans certains pays en développement, on est à 1 médicament sur 2. Donc, c'est un sujet de santé publique extraordinairement préoccupant pour les autorités des pays en question et pour les industriels également. Ce qu'on peut dire, c'est que dans un pays comme la France, la contrefaçon est assez peu développée. Pourquoi? Parce que nous avons un circuit de distribution qui est très sécurisé autour du pharmacien d'officine. Il y a un monopole pharmaceutique qui protège les patients français des risques d'introduction de contrefaçon. Donc, il y a quand même de la contrefaçon en France, mais elle concerne essentiellement les entrepôts sous douane, dans les aéroports ou dans les ports, et elle concerne également beaucoup Internet. 1 médicament sur 2 sur Internet est un faux médicament. Et ce qui est important de remarquer, c'est que tous les médicaments sont contrefaits. Principalement, on trouve sur Internet des médicaments d'amélioration de la performance, qu'il s'agisse de performance physique, intellectuelle, sexuelle. Mais en réalité, c'est la quasi-totalité de la pharmacopée qui se trouve faire l'objet de contrefaçons. Et dans les pays en développement, même les produits à bas coût, les médicaments essentiels de la liste de l'OMS, font l'objet de contrefaçons. Donc les industriels sont très mobilisés sur le sujet. On est en train, par exemple, à l'échelle européenne, de développer un système qu'on appelle dans notre jargon, pardon, coding and serialization. On est en train, en réalité, de marquer tous les médicaments.
Chaque boîte.
Voilà, non plus au lot, mais à la boîte. Et donc, on va être capable, en Europe, et petit à petit dans d'autres pays, d'identifier la présence d'un médicament contrefait dans le circuit de distribution. Mais c'est un combat permanent avec des contrefacteurs qui ont bien compris que c'est une activité extrêmement rentable et probablement beaucoup moins risquée que le trafic de drogue ou le trafic d'armes.
Voilà, et ce qui explique que même certains cartels de drogue sont en train de virer à la contrefaçon.
Tout à fait exact, avec par ailleurs des plateformes offshore extrêmement volatiles qui se créent, qui se constituent, qui se montent et qui se démontent très rapidement. Ces produits sont acheminés évidemment en France par exemple par voie postale, et rien n'est plus compliqué que de contrôler les colis postaux. c'est un vrai challenge pour les autorités.
Mais peut-être que l'information à ce niveau-là, à laquelle vous contribuez ce soir, devrait être encore plus intense, parce que c'est vrai que les gens, la facilité de l'achat sur Internet n'est pas suffisamment warning, attention, risque de malfaçon.
Absolument. Donc,
façon et peut-être même des fois de danger. Ça me fait penser au film Le Troisième Homme.
Les sites, oui, absolument. Les sites internet doivent être certifiés et adossés à des pharmacies physiques. Donc, on peut acheter sur internet, mais sous certaines conditions. Par ailleurs, une fois encore, on a un réseau de distribution assez sécurisé. Donc, si vous allez chez votre pharmacien d'officine, vous ne courez pratiquement aucun risque. Troisième élément, disons-le, le fait d'avoir une sécurité sociale et un remboursement des médicaments en France évite ou limite la tentation d'aller s'approvisionner ailleurs que chez son pharmacien, sauf quand il s'agit de produits qui ne sont pas autorisés, qui ont été retirés de la vente, et donc des produits qui sont borderline.
Là, le problème que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous allez utiliser les données des big data dans le cadre du développement de l'innovation ? Est-ce que c'est un point important pour vous ?
Non, c'est juste, on est comme dans d'autres secteurs sur un point crucial de l'innovation d'aujourd'hui et de demain. D'abord parce qu'il y a énormément de données qui sont déjà disponibles, qui sont les données issues du domaine de la recherche, et qu'une analyse la plus performante de ces données-là permet de mieux cibler les champs, les thérapeutiques qui sont proposées. Et puis par ailleurs, par toute la génération des données de vie des patients, de vie sur le plan sanitaire, et tout ce qui peut être recueilli, c'est une façon de mieux cibler les thérapeutiques qui aujourd'hui arrivent sur le marché, qui vont pouvoir identifier en fonction du profil des patients, en fonction de leur comorbidité et en fonction de différents éléments de ce type, leur efficacité de façon la plus précise possible. C'est la médecine de précision, et ce qui va y contribuer, c'est justement la gestion de ces données-là. Donc c'est un enjeu absolument majeur dans le secteur du médicament que d'utiliser ces grosses masses de données et de pouvoir caractériser au mieux les patients qui sont concernés ou qui sont concernés par tel ou tel type de pathologie.
Ces données, René Friedman, elles vont aussi servir pour répondre à la problématique du financement de l'innovation dont on parlait tout à l'heure.
C'est-à-dire
qu'on va avoir des données en vie réelle sur la façon dont les médicaments opèrent chez les patients. Et par exemple, une des solutions à cette problématique du prix de l'innovation, pas dans tous les cas, mais dans un certain nombre de cas, c'est le développement de contrats de performance. C'est-à-dire qu'on va rémunérer sur la base des résultats des traitements.
C'est-à-dire que l'auteur des médicaments va tester son médicament. Si ça marche, il est remboursé correctement. Si ça marche pas, il prend pour lui.
Alors, le mot de tester est sans doute excessif, puisqu'il y aura quelques essais avant et on aura quelques idées sur l'efficacité du produit. Mais effectivement, on sait que ces médicaments du futur traiteront, comme je le disais tout à l'heure, des populations cibles, et on ne prendra en charge par la collectivité que la population cible qui aura reçu un bénéfice du fait de la prise des traitements.
Merci messieurs pour nous avoir éclairés sur le LEM, l'activité donc des professionnels du médicament. Et puis demain, Adrien Taquet viendra nous parler de la politique de l'enfance. Cette émission a été rendue possible grâce à la participation sans contrefaçon de Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Joséphine Lampréa, Dany Journeau et Julien Doumingue. À demain. Merci.
Merci.